フが dans une cifrage, j'ai entendu de quelqu'un qui est assez intéressant. C'est une vision en fait. Bon, c'est une vision de la tshuva très. Je sais pas si c'est chassidique, mais bon, c'est prouvé, c'est bien, bien élaboré. Et bien dit, donc ça vaut le détour. On commence par une histoire qui s'est passée dans un yishuv en Eretz Israël. Une communauté où se trouvait un homme âgé, d'un certain âge, que tout le monde appelait l'homme bizarre, en fait. C'est quelqu'un dont on n'entendait jamais le son de sa voix. Quelqu'un vraiment qui rasait les murs, qui était seul, qui vivait sa vie vraiment de façon très isolée. Et la seule fois où on l'entendait, c'était le jour de Rosh Hashanah. À chaque fois pendant la tfila, un moment donc très solennel, ils ont le kittel, ils ont. Bon, c'est pendant cette filote, il y a un moment donné, ils ont une phrase. Nous, on n'a pas cette phrase. La phrase dit « Anas lachna pesha ve'avon sana vechochacha yigdal na kadosh ». D'accord ?« Anas lachna pesha ve'avon » On part dans leur pesha, leur rébellion et leur faute. « Sana » Donc lève-les, pardonne-les, « vechochacha yigdal na » Et que ta force grandisse, « kadosh » En parlant de « kadosh banchou ». Et toujours arrivé à ce moment-là, lui, il se mettait à crier « Kadosh ana pesha ve'avon » Kadosh Anna Pesha Ve'avon. Là, il changeait un peu la formule et répétait comme ça à 2-3 reprises, mais vraiment en hurlant, et il se faisait remarquer par tout le monde. Et jamais personne n'a osé lui demander quelle était cette habitude, quel était le sens de ce cri. Les années sont passées, et un jour dans le Yishuv, un accident a failli arriver. Une voiture qui a à quelques centimètres, a failli le renverser. Et donc une personne de la communauté est venue tout de suite à l'aide de ce monsieur, donc lui a donné à boire, l'a fait asseoir, et donc elle a entamé un petit peu la discussion, vous vous sentez mieux. Donc puisqu'elle a commencé à parler, elle m'a dit, écoutez, Dieu, on n'ose pas vous déranger, mais bon, vu qu'on en est là, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette habitude un peu bizarre que vous avez à chaque fête, dans les tefilot des Yamim Noraim, de dire Kadosh Anna Pesha Ve'avon, Kadosh Anna Pesha Ve'avon, d'hurler aussi fort. Et là, la personne âgée lui raconte, elle dit, écoute, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de la Shoah, les nazis m'avaient donné le rôle de capot. Et donc, j'étais responsable d'un bloc, faire en sorte que tous les juifs qui s'y trouvaient se rendent au travail, aux travaux forcés, le matin, à l'heure. Donc j'ai toujours fait attention à ce que le travail que j'effectuais n'entraîne aucun mal à tous les résidents du bloc. Il dit, mais un jour, il y en avait un qui était sûrement très fatigué et qui tardait à se lever pour aller travailler. Donc tout le monde était parti, lui il restait seul. Et j'ai commencé à stresser pour lui, j'ai eu peur qu'un des officiers passe et le voie. Donc j'étais vraiment sous le coup du stress, j'ai élevé la voix un petit peu, pour lui dire, vite, lève-toi, vas-y. Et malheureusement, en élevant la voix, j'ai éveillé la curiosité d'un des officiers qui rôdait autour, et il est rentré dans le bloc, il a sorti son revolver, et il l'a tué. Et il dit, de toute ma vie, je m'en veux, je peux pas oublier, il n'y a pas une nuit où je ne m'endors pas avec cette pensée. Et c'est pour ça que quand il y a ces mots-là, lui, c'est de dire Kadosh Anna Pesha Ve'avon, c'est les rachetés vodes de Kapo, Kouf Aleph Pevav. Et donc il s'en veut tellement jusqu'aujourd'hui, donc il exprime cette tristesse, cette douleur à travers ces mots-là. Mais donc ça nous amène en fait à se poser la question, à se positionner par rapport à l'essence, l'essentiel même de la Teshuvah. Bien entendu que vivre une vie, cela entraîne des erreurs, obligatoirement, inévitablement. Maintenant, il y a des erreurs qui sont lourdes de conséquences, d'autres moins lourdes. Mais il faudrait comprendre c'est quoi l'élément dans la Teshuvah qui fait que tout d'un coup, ces erreurs qui ont été dramatiques une partie de ma vie ne le soient plus, ne le deviennent plus. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le système? On voit d'ailleurs le Rambam. Le Rambam dans Hilchot Teshuva Perek Zayin Al-Chazayin. Et dans cette halakha mamash, du début à la fin, on voit là où se trouve le Baal Teshuva avant de faire Teshuva et où il se trouve après. Il dit là-bas, Kamam me'ulla ma'alat Teshuva. Emesh ayaze muvdal me'ashem Elokei Israël. Rien qu'hier, avant de rentrer dans le système de la Teshuva, il était donc distant d'Hachem. Comme le pasouk le dit, Avonotechem hayum avdilim benechem leven Elokechem. Le prophète Yeshaya donc dit au peuple, vos fautes ont créé une sorte de séparation entre vous et Hachem. Et donc la conséquence, Tsoek ve'enonane. Quand il se met à prier, il n'est pas exaucé, il n'est pas entendu. Shenemar kitarbut fila eneni shomea. Même si vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Ve'ose mitzvot ve'torfin otam befanav. Et c'est pas ça, c'est que cette personne, avant de faire tshuva, elle continue à faire des bonnes actions, elle fait aussi des mitzvot. Torfin, la chante trefa. Quelque part, on les rejette, on les dévalorise. Torfin otam befanav. Shenehemar, il y a un pasouk très dur dans Yeshaya, qui dit Mi bikesh zot mi yetrem remos chatzeraï. Mais qui vous a permis de fouler ma cour, vous les pécheurs? Mi gambachem veisgor de la taille velo taïrou. Le navire continue en disant, mais si seulement il y avait une personne assez courageuse pour fermer les portes de mon misbeach, en li chefetz bachem amar Hashem Tzevakot. Je n'ai aucun intérêt de vous, dit Hashem. Ou mincha lo ertzem yetchem, et une offrande, je n'agréerai pas de vous. Donc ça, c'est le Baal Teshuva avant la Teshuva. Ça, c'est le avant, comme il y a les photos avant, après. Ça, c'est avant. Après, qu'est-ce qui se passe? Ve'ayom, ayom, le jour où il fait tshuva, umudbag bashrina, shenemar ve'atem advekim bashem chayim kolechem ayom, tzoeg ve'na'ane miyad, il est exaucé tout de suite. Shenemar ve'aya terem ikra'u ve'ani enei. Il y a d'autres versets qui parlent de l'immédiateté avec laquelle Akadosh Baruch Hu nous répond. Ve'ose mitzvot u'mekablin otan benachat ve'simcha. Comme c'est marqué, kvar ratza Elokim et maasecha, comme on le dit à la fin de Kippour. Velo od el Hashem itavim lahem. Non seulement on va les agréer, mais en plus on est avide dans le ciel, on est avide, on attend ces mitzvot. Comme c'est marqué, ve'arva Hashem minchat Yehuda. Elle est agréable pour Hashem l'offrande de Yehuda de Yerushalayim qui met olam urshanim kadmoniot. Donc on voit cette distance faramineuse qu'il y a entre le moment où il n'avait pas encore fait tshuva et le moment où on fait tshuva. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est l'élément, quelle est l'étape cruciale qui fait qu'on passe d'un extrême à l'autre? Alors bon, c'est intéressant, il s'arrête ici, le rabbin qui développe cette idée, il s'arrête au milieu un petit peu pour nous dire que Le nom des mois évoque quelque chose de fondamental, de très important. D'accord ? Elul, comme on dit d'ailleurs dans le monde des yeshivot, mais Elul, ça veut dire slichot, ça veut dire tshuva, ça veut dire préparation yomadine. Alors que c'est vrai que dans les textes de la Torah même, on n'a jamais vu que la Torah donne un nom au mois. La Torah parle en chiffres. Bachodesh Arishon, Bachodesh Asiri. Où est-ce qu'on voit la notion des noms des mois? Les noms des mois figurent seulement après le premier exil. On le voit dans la Megillat Esther. Là-bas, c'est Bachodesh Asiri ou Chodesh Tevet, Bachodesh Nemassar ou Chodesh Adar, Bachodesh Arishon, Chodesh Nissan. Là-bas, il y a plusieurs mois qui sont évoqués. Donc, a priori, c'est ce qui ressort au niveau du Pshat, c'est que l'inspiration de nommer les mois avec des noms et pas des chiffres, et quelque chose qu'on a pris à Bavel. C'est pas quelque chose qui a été pendant toute la période du premier Beth Amikdash. C'est quand on est arrivé à Bavel, on a mis des noms sur les mois comme eux, donc on s'est inspiré d'eux. Et Béhémet, dans le Yerushalmi, Rosh Hashanah, dans Perek Aleph Alachabet, Là-bas, c'est marqué Shemot Achodashim Alu Immanu Mibavel. Le nom des mois est venu avec nous après qu'on soit sorti, qu'on soit revenu de Babel. C'est-à-dire qu'au début, on ne les avait pas. On le voit aussi dans un texte de Yechezkel, mais qui fait référence au début de Galout Babel. Il décrit un petit peu ce qui se passait là-bas en Babylonie au niveau des femmes de la communauté. Il dit Veine Sham Hanashim Yoshvot Mevakot et Tatamuz. Quand on est arrivé à Babel, on a vu des femmes qui pleuraient le Tamouz. Et là-bas, les Mefarshim, ils expliquent, c'est quoi ce Tamouz ? Tamouz, en fait, c'était le nom d'une divinité donc qui était liée à un phénomène de la nature et qui est liée à l'été. Et c'est la période où cette force, cette divinité que les gens, que les Babyloniens ont rendu une divinité, elle fane. Donc c'est au début de l'été, avec les grosses chaleurs, ce Tamouz, il fane pour refleurir l'année d'après. Et donc, carrément, c'est-à-dire qu'on est parti même prendre, c'est extraordinaire, on est parti même prendre des noms qui évoquaient la Avodah Zarah. Et on les a mis dans notre calendrier, parce que Tamouz, à la base, c'est une Avodah Zarah. Alors, il ramène au nom du rabbi que, dans une des Sichot, le rabbi avait trouvé un fascicule qu'on appelle Midrash Shemot HaChodashim. On interprète le nom des mois. C'est-à-dire que même si on s'est inspiré initialement de la mentalité babylonienne pour nommer les mois chez nous, mais une fois fait, on leur a donné une connotation, bien entendu, en accord, en phase avec la Torah. Et donc, bien entendu, quand il dit là-bas, par exemple, le mois de Nissan, donc c'est le mois où les Nissim se sont produits. Le mois d'Iyar, où on a reçu la manne, c'est Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la manne Beha'arat Panim, en nous montrant un visage rayonnant, souriant. Beha'arat Panim, Iyar, c'est Milashon Or. Yisivan, on retrouve les lettres de la notion de Sinaï, des Nissim qu'il y a eu au mont Sinaï. Il dit, et Tamouz, et vous voyez, dans ce Midrash Shemot, c'est marqué que Tamouz, par rapport au Cheta Egel, le Cheta Egel qui a eu lieu en Tamouz, donc il porte le nom de l'Avodah Zarah, parce qu'on a fait Avodah Zarah ce mois-là, donc on a mis le mois de Tamouz. Alors il dit, d'après ça, le mois d'Eloul, il dit Eloul, ça fait référence, c'est une exploration. Voilà. Le mois d'Eloul, il faisait référence à Babel, aux agriculteurs qui avaient travaillé, qui avaient amassé un petit peu toute la matière qui était liée à la terre, et qui faisait un bilan, voilà, donc de ce qu'ils allaient distribuer, de ce qu'ils allaient engranger, de ce qu'ils allaient vendre immédiatement. Voilà, il y avait un bilan, donc une sorte d'exploration du travail fourni, de l'investissement réalisé jusque-là. Et donc ça tombe très bien. D'ailleurs, il ramène, quand on regarde dans la parashat Shlach Lecha, là-bas sur les Meraglim, c'est marqué, Veyaturu et Eretz Kenaan. Donc la tour, il devait aller explorer. Donc visiter, faire un bilan. Et comment le Targum Onkelos, donc babylonien, comment lui traduit Ve'alilu Yatara, Miyashan Elul. Donc Elul est profondément ou intrinsèquement lié à l'exploration, à une période de bilan. Et donc, bien entendu, si on entend faire un bilan dans le cadre d'un magasin, un inventaire, ou faire des fois même une étude de marché pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour faire fleurir le commerce. Donc c'est exactement ça. Et Elul, c'est pas par rapport à un commerce, c'est par rapport à notre vie tout simplement. C'est le moment à l'approche effectivement de la nouvelle année. Se dire voilà, bon, on va faire l'inventaire un petit peu de tout ce qu'on a réalisé ou tout ce qu'on aurait pu réaliser et le mettre en place pour l'année d'après. Maintenant, c'est ce qui est magnifique, c'est que les Chachamim, sur ça, c'est-à-dire sur ce mois d'Elul qui est à la base babylonien, qui n'est pas juif, ils sont partis chercher des psukim et le Rav Shapira, effectivement, s'arrête énormément sur ça, sur les efforts que les Chachamim ont fournis à trouver des remazim dans différents textes qui font référence au mois d'Elul. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les différents remazim, alors il y en a plein, hein, il y en a plus d'une vingtaine. Bon, ça c'était plus à l'époque des géonimes, juste avant les richonimes. ils se sont attardés à trouver des rémazim. Et les rémazim les plus connus, ils y font référence aux trois éléments sur lesquels le monde tient, Torah, Avoda, Gemilut Chassadim. Il dit la Torah, on a un remez de Elul dans la parashat Mishpatim, quand on parle là-bas, vous savez, de l'homicide involontaire de celui qui a été tué de façon inconsciente, enfin pas voulu par celui qui a commis le meurtre. C'est marqué là-bas qu'il Vea Elokim ina legado vesamti lecha makom asher yanu shama. Il allait dans les villes de refuge, les villes où il y avait des lévim, les lévim qui étudiaient la Torah toujours. Donc il dit cette personne qui a manqué de vigilance devait aller étudier la Torah. Donc ina legado vesamti lecha, ce remez fait référence à la dimension Torah. Après, on a l'autre, le plus connu d'entre eux, Anil et Dodiv et Dodili, effectivement, ça fait référence à l'attachement, donc à une relation attachante qu'on exprime à travers la tfila, les Ovdo, Bechol, les Vafrem, Zavod, Hachevalev, et Ish, les Re'eu, dans la Megillat Esther, Ish, les Re'eu, ou Matanod, les Vionim, fait référence à Zdaka. Donc on a Torah, Avodah, Gmilut, Hasadim. Sur ces trois sujets, nous avons les Rachet Evot de Elul. Donc c'est-à-dire que c'est sur ces trois plans qu'on doit pratiquer ce bilan, cette introspection sur soi-même. Donc maintenant, revenons à ce qu'on disait au début. Mais comment, Bémet, comment on répare? Comment on arrange? Quelle partie de la Tshuva est véritablement cruciale et qui va arranger ce qu'on aurait causé, on va dire, comme dégâts à travers nos mauvais comportements, les erreurs qu'on aurait effectuées? Alors, il le présente comme ça, il dit, Bémet, c'est clair qu'il faudrait dire déjà qu'il y a deux niveaux de tshuva. Il y a ce qu'on appelle le niveau basique, et après, il y a un niveau, on va dire, plus optionnel. Le niveau basique ferait référence au fait de se pencher sur le futur. D'accord? C'est une sorte de kabbalah léatide. Maintenant, si effectivement on arrive, on trouve les forces et les ressources en soi-même d'aller chercher dans le passé les erreurs qu'on a faites et de regretter ces erreurs, de méditer sur ces erreurs, alors ça c'est une option. Je crois que c'est important, c'est pas évident. C'est pas évident de dire ça. Il y en a beaucoup qui le pensent et qui le présentent différemment, comme on va voir d'ailleurs tout de suite. La Gemara dans la Avodah Zarah, quand elle décrit le Baal Tshuva par excellence, à travers la personne de Rabbi Eleazar Ben Dourdaya, donc vous connaissez l'histoire, donc ce type qui n'avait laissé aucune femme de plaisir et qui a entendu un jour donc une nouvelle se trouver au loin, il a fourni tous les efforts, cette femme lui sort une phrase comme quoi lui est irréparable, donc cela le blesse et il va s'adresser donc à tous les éléments de la terre qui refuseront d'intercéder en sa faveur jusqu'à que lui exprime une douleur phénoménale, un regret qui va le mener jusqu'à la mort. Et là, donc, la bat kol sort en disant « Rabbi Lazar ben Udaryam, nitkabel echaya olam haba ». C'est lui qui a dit la fameuse phrase de la Teshuvah, repris par Rav Dessler et d'autres penseurs contemporains, « En adavar talui elabi, cela ne dépend que de moi », etc. Donc, il est quand même reconnu comme étant le Baal Tshuvah. Ça reste, on va dire, une référence absolue de Tshuvah. Alors, c'est vrai que quand on se met un petit peu à penser à cette histoire, on a quoi devant nous? On a un homme qui a exprimé un regret jusqu'à la mort, en fait. Véritablement, il n'a rien produit après. Il n'a rien fait de bien. Il a juste médité profondément, et ce, jusqu'à la mort, concernant le mal qu'il avait fait et qu'il avait effectué jusque-là. Donc c'est vrai que de cette histoire, si on prend uniquement cette histoire, on aurait tendance à croire que la tshuva, c'est principalement s'investir, se pencher un petit peu sur le passé, sur nos erreurs, et de les méditer, de les analyser, et d'arriver à quelque chose de bien à travers ça. Effectivement, quand on regarde un petit peu dans les livres de Moussar qui parlent du phénomène de la tshuva, tel que le Chovat al-Vavot, par exemple, dans Sha'ar HaTshuva Perek Dalet, lui dit comme ça, Guidré HaTshuva Arishon, la première chose, Acharata Alma Shekadam Lomina Avonot. Lui, il exprime de cette façon-là. La première chose, c'est regretter tout ce qui s'est passé auparavant. Ve'asheni, Sheya Azvem, Ve'yasur Mehem. Et en deuxième étape, serait donc d'abandonner ses mauvaises habitudes et de s'en écarter. Dans un langage un peu plus impliquant, le Rabbeinu Yona, qui a aussi donc une référence en le sujet, dans le sujet, dans son Shaar HaTshuva, il dit là-bas à Ikar Harishon, il ne marche pas ces mots, Acharata. Le principe premier de la Tshuva, c'est la Charata. Yavin Levavo qui rave amar Azavo et Hashem. Il faut que son cœur réalise pleinement l'amertume d'avoir abandonné Hashem à travers sa Averot. Viyashiv El Libo qui yesh onesh venakam vishilem ala avon. Et il devra réaliser qu'il entraînera des conséquences néfastes, donc des punitions suite à ses méfaits. Veitraret alma savaraim veyomar bilvavo measiti. Il doit s'en prendre à lui-même en se disant qu'ai-je fait? Echloya pachad elokim lenegedenai. Comment je n'ai pas eu la crainte d'Hachem face à mes yeux? Ça, c'est la première partie, la première étape. Rabbeinu Yona. Donc il rejoint maman, je crois, chovat alvavot. Et après, il dit aikara sheni azivat achet. Là, il parle effectivement d'envisager différemment la vie. Aïkar Ashlishi, il revient, c'est un peu rasra, mais bon, c'est sa vision de la tshuva. Il dit Ayagon, Yagdil, Yagon, Bidvavo, Veyanar, Bibriyoglev. Il doit donc intensifier la tristesse, la peine dans son cœur. Veyanar, il doit pousser des soupirs de l'amertume de son cœur. Ça, c'est le Chovat Alvavot, côté plus Ashkenaz, d'accord? Chovat Alvavot et Rabbeinu Yona.
Le côté
Yazov,
c'est Kabbalah.
Yazov,
c'est quoi?
Ouais, Yazov, oui. Yazov Dracha, Veigmo, Bechol, Levavo, Kilo Yosif. Donc c'est Kabbalah Léatid. Lo Yosif, c'est Léatid. Par contre, le Rambam, lui, le Rambam, dans le Perek Bet, à la Chabed, bon, il le définit. Alors, bon, le Rambam, c'est quelque chose qui s'étudie profondément. Mais quand on prend la Halakha Bet du deuxième chapitre, il dit Uma hi al Shuva. Lui, le résume effectivement par cette prise de conscience dans le futur. Et après, d'ailleurs, c'est très, son langage interpelle, il finit là, l'arrondi, en disant Vechen itnachem al mashavar. Et ainsi. Donc, on dirait au passage. Et ainsi, itnachem al mashavar, il regrettera ce qu'il s'est passé chez Nehemar, qui a charé shuvi nichamti. Je vois que le passou qui ramène Achari Shuvi. Shuvi, donc c'est l'élément qui définit la tshuva. Et pour lui, la tshuva, c'était quoi? C'est le changement dans le futur. C'est le changement dans le futur. Qui Achari Shuvi, Nihamti. La Nechama, effectivement, c'est aller chercher dans le regret par rapport à tous les méfaits que j'ai pu commettre auparavant.
Mais dans le premier Pirek,
ouais, ouais.
Il autrement, il dit d'abord le parfait, la microte, les énumérés, le parfait, ensuite il dit
Dans la halakha bet, tu fais référence
bet, ou, je ne sais plus, dans le Pirek Aleph, il a le deuxième, il dit en fait c'est le Nihum, et après seulement il dit la Kabbalah.
Non, c'est dans la halakha Aleph, je pense. C'est dans la halakha Aleph qui parle de ça, ouais. Dans la halakha Aleph, il dit là-bas.
C'est mon courage.
Alors. Là-bas, il dit Kesheyase tshuva veyashuv mechetro, chayav leidvadot ifneakel barui. Mais au début, en relief, la notion du vidouille. Alors, c'est très intéressant parce que tous les mefarshim du Rambam vont tirer de lui que pour le Rambam, il n'y a pas de mitzvah de faire tshuva, mais lorsqu'on fait tshuva, il y a une mitzvah de faire vidouille. Kesheyashuv mechetro. Et c'est ce qu'il dit après. Il dit Veze vidouille dvarim ou vidouille ze mitzvah tase. Il ne dit pas la tshuva, c'est mitzvah tassé. Vidouizé, mitzvah tassé. Alors après, il dit comment on fait. Chatati, aviti, pachati, etc. Vare, nichamti, vabochti, vemaasai. Ou leolam, enichoser, le davarze. Veze ou karo, shel vidouille. Donc on dirait qu'au début, ce qu'il veut expliquer, c'est la mitzvah minatora. Puisque le Rambam se présente toujours comme quelqu'un qui vient d'abord interpréter les références écrites. La tshuva, toujours, il commence. Donc là, on va parler de ce principe de la Torah. Donc, il s'attarde sur le vidouille. Maintenant, dans le Perek Bet, à la Chabet, quand il arrive maintenant à parler du phénomène de la tshuva, donc qui est en amont on va dire, qui est le klal un peu du vidouille. Le vidouille, ça reste la mitzvah de la Torah, mais c'est la mitzvah qui s'exprime dans le klal de la tshuva. Et umaya tshuva, sheyazov achotecheto veyaseu mimarshavto veigmor bedibo shelo yaseuot. Il présente les choses différemment. C'est ma main. Il y en a qui présentent ça comme une stira, mais on peut comprendre sous cette forme-là. C'est qu'au début, il a tardé juste à expliquer où est-ce que dans la Torah on parle de ça. On dit dans le cadre de la tshuva, et là il s'attarde sur le vidouille. Mais quand il arrive à parler un langage plus humain, notamment dans Perek Bet, là il dit clairement Veigmor Beidbo Shelo Yaseu Od. Après, il dit Vechen Itnachem Al Shava. Veyaïd Allah Talumot Shelo Yashu Lezeachet Leolam. Donc il met la Nechama, donc ce qu'il appellerait la Charata, en deuxième temps. Et donc, ça dénoterait un petit peu de ce que Rabbeinu Yonah et le Chovat Halevavot ont préconisé dans le cadre de la Tshuva. C'est l'Admour HaZaken, dans son Shulchan Aruch, dans Ilchot Edut. Et a priori, lui, donc, c'est fixé par rapport au Rambam. Là-bas, il parle des gens qui sont psoulim la Edut. Et donc, en s'inspirant de la Gemara dans Sanhedrin, il parle de Mesachek Bekuvia. Mesachek Bekuvia, d'accord, les joueurs de casino, les joueurs de hasard. D'accord. Et il ramène à, des joueurs. Alors, il dit là-bas, un tel individu, à partir de quand il pourra redevenir kasher l'Eidout, quand il fera tshuva. Et c'est quoi il fera tshuva? Dès le moment où il a cassé la table de jeu sur laquelle il a l'habitude de s'adonner. Voilà. Alors pourtant, il n'a rien fait encore. Dès qu'il casse la table, donc c'est l'acte qu'il fait pour le futur. Voilà. C'est ça qui détermine sa tshuva. Donc on dirait que l'Admour HaZaken s'inspire du Rambam pour poser, mamash, une halakha claire. C'est la tshuva, c'est changer de place, changer de fauteuil, changer les habitudes de sa vie. C'est principalement le futur. Et dans un deuxième temps, comme le Rambam dit, vechen itnachem al mash avar. Donne un exemple ici, le Rav qui ramène cette sikha. Il dit, vous avez un père bon, qui n'a pas eu trop le temps de passer du temps avec ses enfants et qui promet à ses enfants que tel matin de leurs vacances, ils iront très tôt au parc et les amèneraient donc pour pouvoir profiter d'une journée agréable en sa compagnie. D'accord ? Et voilà que la veille, le père est resté au bureau très 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 tard et il rentre chez lui en pleine nuit. Et il voit que à l'entrée de la maison, il y a déjà les sacs à dos des enfants qui sont préparés. Je lui dis, c'est même pas la peine, c'est foutu, je serai pas du tout en forme pour pouvoir le faire. Alors il dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors ça dépend. D'après Rabbeinu Yonah, sa tshuva, c'est quoi? C'est se lever et dire aux enfants, les enfants, je suis désolé, vraiment, mais quelle peine j'ai eue. Et exprimer tous ses regrets. D'après le Rambam, c'est pas ça le tshuva. Tes regrets, tu les exprimeras après. Ta tshuva, c'est quand tu te lèves le matin, écoutez les enfants, là, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'organiser de telle façon, deux jours avant, pour faire en sorte que l'incident qui s'est passé hier ne se reproduise jamais. Voilà. C'est ça la tshuva. Et laisse les pleurs pour après. Voilà. D'accord, c'est du concret. La tshuva, c'est quelque chose qui doit être... C'est pas dans le sentiment tellement du regret, du pleur qu'on va avoir de combien on a réussi à se sensibiliser, c'est surtout par rapport à l'avenir. Voilà, Kabbalah elle est attise principalement. Après, on verra maintenant cette dimension du Rambam de Vechen Itnachem. Il ramène une histoire chassidique, bon, c'est une histoire très moderne qui s'est passée. Il raconte que l'Admour de Vignitz, un jour il était chez un chassid polonais qui habitait à Los Angeles. Il a passé Shabbat chez lui. Et l'Admour de Vignitz lui fait part de son désir ardent de rencontrer le rabbi. Et l'Admour, le chassid en question, qui était proche du mouvement Chabad, lui dit, mais vous savez, hein, le rabbi, il sait tout. Il sait tout, même à des milliers de kilomètres. Hein, il sent tout. Alors l'Admon essaye de comprendre un peu pourquoi il lui dit ça, qu'est-ce qui lui fait dire ça. Alors après une certaine insistance, le type se met à raconter qu'il y a quelques années, il avait dû passer un certain temps, certains mois, dans une maison de rééducation, dans laquelle il s'était lié de plus que d'amitié avec une des infirmières non juive, bien entendu. Et arrivé à la fin de sa rééducation, à la fin de son traitement, et bon, ils avaient envisagé que voilà, mardi il devait sortir. Ça y est, ils partaient pour le rêve américain avec elle, à l'aventure. Ils allaient revivre une vie nouvelle, etc. Et voilà qu'en début d'après-midi, vendredi, le téléphone sonne dans la centrale donc, des infirmières. On le demande à parler à ce patient-là, ce fameux chassid. C'est un des secrétaires du rabbi qui le prend au téléphone et qui lui dit « Écoute, le rabbi a bien reçu tes demandes de bracha concernant ta refoua, ta rééducation, etc. Mais par contre, il demande à ce que immédiatement tu quittes ta chambre et tu rentres chez toi à la maison. » L'autre, il dit au secrétaire « Non, mais mes traitements sont prévus jusqu'à mardi, c'est compliqué de sortir maintenant, en plus... Je vais arriver juste avant Shabbat, c'est trop risqué. Écoute, toutes tes excuses, tu auras tout le temps de les exprimer après. Le rabbi a dit que maintenant, tu prends tes jambes à ton cou, tu te lèves et tu vas chez toi. Alors, c'est un peu ça. À la rigueur, après, tout est khashbonot, et toute ton analyse, tu auras tout le temps de le faire après. Toute l'introspection, on va dire, au niveau des sentiments, au niveau de ton ressenti. Maintenant, il faut agir. C'est ça, pour lui, c'est ça la tchouva. Maintenant, il faut agir. Maintenant, pas. Et comme ça, effectivement, il a raconté que le rabbi l'avait sauvé donc, de ce mirchol, de ce nisayon, dans lequel il était en train de sombrer. Et donc, il explique, en fait, et bébête, pourquoi cette partie a l'air effectivement cruciale et peut-être la plus importante de la tchouva, la Kabbalah l'Atid. On lui dit, tout simplement déjà, parce que le judaïsme est quelque chose qui, dont la priorité a toujours été le futur, voilà, l'avenir. Ça a toujours été ça. D'accord ? Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné, à la rigueur, toutes les mitzvot qu'il nous a donné de se souvenir de tel ou tel événement, ce n'est que pour organiser notre futur, ce n'est que engageant. Mais il n'y a, proprement dit pas dans la Torah, de devoir pesant et lourd de mémoire uniquement. Par respect, il faut absolument... Non, si ce n'est te rappeler pour pouvoir agir dans le futur. Donc il dit déjà, l'esprit général du judaïsme est tourné vers le futur. Donc il est tout à fait normal que quand on parle d'une mitzvah essentielle et générale comme la tchouva, ça soit tourné vers le futur, premièrement. Deuxièmement, là il ramène le risque, effectivement, de l'introspection sur le passé de façon trop lourde. Il dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit des fois, c'est le rabbi qui écrit ça dans un des Likutei Sichot, et il disait des fois le pleur pourrait se substituer à l'action. C'est-à-dire quelqu'un qui a pleuré de regret sincère, indiscutablement sincère sur tout le mal, toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre auparavant, il dit des fois ça pourrait arriver que ce pleur, une fois qu'il est... Ça y est, il s'est soulagé. Ça l'a soulagé, ça l'a débarrassé. Ouh là là, il avait un poids qui était trop lourd. Maintenant, il a pu l'exprimer, l'extérioriser. Et ça s'arrête là. Et l'histoire s'arrête là. Et en fin de compte, il s'est en rien amélioré. Et il a nullement changé drastiquement ou profondément sa vie. Dans le Tanya, dans Igeret Hatshuva au Perek Aleph aussi, il dit là-bas, Veine mitzvat Hatshuva mina Torah hi azivat achet bilvad, velo kedat amon shel Hatshuva hi ta'anit veisurim alava. Dans Igeret Hatshuva, donc c'est la Admor HaZaken, il le dit clairement, il dit c'est pas le Ikar Hatshuva, c'est le changement. Le changement, c'est dans les jours qui arrivent, c'est dans le futur. Et il dit, et pas comme beaucoup pensent que la tchouva, c'est le ta'anid et ce que je vais m'infliger sur tout ce qui s'est passé. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, alors, mais comment le Rambam, donc, on a compris que tout ça s'est inspiré à la base du Rambam. Mais comment le Rambam, lui, a cette vision de l'histoire de Rabbi Lazar ben Dourdaïa ? Puisqu'en fin de compte, lui n'a rien fait, n'a rien produit. Il n'a fait que regretter ce qui s'était passé. Alors sur ça, le Rabbi a à maintes reprises, dans différentes sirotes, il fait référence à l'enseignement du Harizal. Le Harizal disait que le Rabbi Lazar ben Dourdaïa était tout simplement le Gilgoul de Yohanan Kohen Gadol. Hein, c'est extraordinaire. Il dit, Yohanan Kohen Gadol, qui a vécu 200 ans avant la destruction du deuxième temple, qui a été connu pour avoir occupé le rôle de Kohen Gadol pendant 80 ans, et à la fin, il a tourné Tzedouki. Donc lui, il a tout un passé d'action et une finalité laborieuse, catastrophique. Le tikkun de cette neshama était d'amener sur terre un homme dont toute la vie était catastrophique, mais dont la fin était merveilleuse, dont la fin était rayonnante. Il dit, et c'est ces deux personnages qui se complètent, en fait. C'est dans ce sens que Rabbi Lazar ben Dourdaïa est le Gilgoul de Yohanan Kohen Gadol. Très intéressant. Il dit, parce que, en fait, bien entendu, quand on a. Il dit, les massim tovim de l'homme, c'est un peu l'habit qui se confectionne quand il arrive au Lamaba. Voilà, il est habillé, il a de quoi, il a une stature. Il dit, quand on a fini sa vie comme Yohanan Kohen Gadol, et qu'on s'était fait confectionner un habit comme ça, et qu'on ne peut pas en profiter parce qu'il a mal fini, alors il fallait absolument envoyer cette Neshama dans une autre expérience, dans une autre vie, pour pouvoir compléter cette finalité et profiter de tous les habits confectionnés à travers les Massim Tovim pendant ces 80 ans d'exercice de Kohen Gadol. Mais comme il dit, et le rabbi dit là-bas, il dit, « Im bechiyot lo nichnasim le gan Eden » avec des pleurs, c'est sincère, c'est beau, c'est touchant et c'est même bouleversant. C'est vrai, des fois c'est bouleversant d'entendre quelqu'un pleurer. Mais sauf, c'est pas ce qui va nous faire entrer au Gan Eden. Ce qui nous fait entrer au Gan Eden, c'est le Massim Tovim, c'est ce qu'on aura produit effectivement. Donc l'histoire de Rabbi Lazar ben Dourdaïa ne peut pas nous servir de référence phare pour nous dire à nous c'est quoi le principal de la Tshuva. Donc pour lui, c'est évident que c'est l'action et la façon d'entreprendre à l'avenir la vie. Maintenant, effectivement, dans un deuxième temps, là, on parle de la tshuva plus perfectionnée, beaucoup plus améliorée. C'est cette tshuva qui m'amène, d'abord j'ai changé de vie, activement, et après, dans un deuxième temps, je m'attarde, on va dire, sur les erreurs effectuées auparavant, et j'essaye de les réparer. Alors, il y a plusieurs endroits où il prouve ça. Bon, l'endroit principal de la Torah, c'est l'histoire de Yosef, bien entendu. D'accord ? Parce que tout le monde demande, Yosef, qui devient donc un personnage incontournable de l'Égypte, ne comprend pas comment, pendant toutes ces années où il a occupé ce poste, comment se fait-il qu'il n'envoie pas un message à son père pour dire qu'il est vivant ? Ce pauvre son père qui fait la ascara de son fils tous les ans, dis-lui que tu es vivant. Et on a du mal à comprendre cette conduite quand ses frères ils arrivent et qu'en fin de compte, et lui les reconnaît, etc. Mais pourquoi ? C'est quoi son cheminement ? Pourquoi il ne leur tombe pas dans les bras directement ? Et au contraire, il est là à leur mettre des pièges, il les accuse et il va trouver des astuces pour faire amener Binyamin. Et il va accuser Binyamin alors que Binyamin lui personnellement jamais rien fait. C'est quoi cet acharnement ? Et c'est Mashma, quand on regarde les Midrashim, on l'avait ramené, il me semble, l'année passée, un des Midrashim qui parle des takanot que Yosef avait placé en Égypte, quand il était donc Premier ministre. La première takana qu'il avait dit, c'est que lorsqu'une personne vient s'approvisionner, il faut noter son nom, le nom de son père, et à combien de personnes cela va profiter. C'est-à-dire qu'il avait interdit de vendre en gros. Il n'y avait pas de vente en gros. C'était que du personnel. Il fallait venir dire ton nom, le nom de ton père et pour combien de personnes tu venais chercher à manger. De cette façon-là, il s'assurait que le jour où ses frères se présenteraient à un endroit en Égypte pour acheter de la nourriture, alors il le saurait. Donc ça veut dire que toute cette attitude un peu réfléchie et froide de Yosef, c'est pas sur le moment. quelque chose qu'il a, il avait préparé, et a eu tout le loisir malheureusement de le préparer. Et donc bien entendu, l'explication à cela, c'est quoi ? C'est effectivement de voir comment dans l'avenir, savoir est-ce que ses frères ont fait tchouva, Bekitsour. C'est ça le truc. C'était de voir comment dans la même situation, si maintenant on leur met un des frères de surcroît enfant de Rachel, comment ils vont se comporter. Alors effectivement, il y a des midrashim qui disent que certaines shvatim, lorsque Binyamin a été accusé de vol, il dit non, Ganav ben Ganevet. Il y en a qui l'ont dit, c'est normal que tu voles. Ta mère, on se rappelle encore de la crise que notre grand-père nous avait fait parce que en fin de compte, il s'avérait que ta mère lui avait volé les trafim. Donc en fin de compte, c'est pour ça. Il y en a des shvatim comme ça, ils voulaient l'abandonner. Jusqu'au moment, effectivement, où Yehuda dit, coûte que coûte, je ne partirai pas sans lui, prends-moi, moi, à sa place. Donc là, il a vu, effectivement, la véritable teshuva, c'est-à-dire qu'il a vu que, non seulement ils étaient donc déjà, ils avaient grandi, ils avaient mûri, mais en plus, ils étaient à même de ne pas refaire la même erreur, donc ça veut dire qu'ils avaient médité sur le passé, et ils avaient compris qu'un frère, même s'il n'est pas de la même mère, il n'était pas question de le brader, ou de dévaloriser sa présence dans la famille. Et il ramène aussi l'histoire. Il y a un passage dans la Torah où on dit Vayeda Kayin et Ishto Vatelet et Chanoch Vayi Boneir Vaikra et Shemahir Al Shem Beno Chanoch. Sur Kayin qui a tué son frère. Donc il dit il a eu un enfant, il s'appelait Chanoch. Il a construit une ville. Alors le Ramban là-bas, déjà, tous les Mefarshim, ils disent, c'est quoi cette histoire? Il construit une ville. Alors le Ramban, il le descend. Le Ramban dit, c'est une critique que la Torah est en train de faire. Parce que Vayi Boneir. On parle au présent. Il construit, mais il a rien fait. Mais en fin de compte, il n'a rien mis en place. Il essaye, il s'efforce de sortir, mais en fin de compte, il n'y arrive pas. Et le Rabbi, au contraire, d'autres Mefarshim disent, non, pas du tout. Ce que la Torah s'efforce à dire, c'est que, vu qu'il avait supprimé la vie, la Torah tient à nous dire que non, Vayeda Kayin et Ishto Vatelet et Chanor, il a supprimé la vie, il a compris à un moment donné qu'il fallait donner la vie et qu'il fallait au contraire élaborer et mettre en place des choses, donc pas aller dans le sens de supprimer les choses, mais au contraire de les développer et de les faire exister. Et c'est à travers ça que la Torah exprime la tchouva de Kayin. Et en fait, donc c'est ça, donc on comprend. La tchouva, on va dire, d'un deuxième niveau, celle à laquelle on doit aspirer, c'est après avoir changé nos actions dans le concret, alors dans un deuxième temps, on peut se permettre d'aller chercher dans le passé pour essayer de combler un petit peu les manques et les failles qu'on aurait eues auparavant. Et il le dit, ça c'est intéressant, c'est que dans un deuxième temps, on va aller chercher, d'abord, pour lui, on ne s'occupe pas tellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Ce processus logique d'abord de Rosh Hashanah et après de Kippour démontre un peu de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, véritablement, si Kippour est tellement fort, on aurait dû s'occuper d'abord de Kippour, Yichaper Alechem, Mikol Chatotechem, Leteretchem, etc. Et après, on se fait juger. Et là, comme ça aurait été bien pour nous. Non, Rosh Hashanah, c'est un zman de Kabbalah Le'atid. Dans un deuxième temps, effectivement, il y a Kippour où là, tu vas aller chercher qu'est-ce que tu peux regretter, qu'est-ce que tu peux t'attarder sur ce qui s'est passé et le regretter pour améliorer le changement sur le futur que tu as déjà pris à Rosh Hashanah. Donc même l'ordre des fêtes a l'air de confirmer cette Ashkafa, du moins cette vision des choses. Et il dit là-bas, le Rabbi a très souvent parlé à des gens qui sont venus, par exemple, lui demander des questions par rapport à des regrets profonds qu'ils avaient, un type, c'est arrivé très souvent qu'un type exprime le regret profond qu'il avait eu que pendant des années, il n'a pas mis des tefilines. Alors le rabbi dit, bien sûr, à partir d'aujourd'hui, donc non seulement tu mets des tefilines, mais tu vas investir du temps à étudier Ilchot Tefilin, ou tu vas mettre Rabbeinu Tam, tu vas faire quelque chose. Ton erreur doit te servir de phare ou te diriger dans ta Kabbalah Le'atid. Mais le principal, c'est ta Kabbalah Le'atid. Il y a même une femme qui lui envoie une lettre dans laquelle elle exprime son regret profond et même l'angoisse que cela lui procurait, le fait d'avoir conçu son enfant à une époque où elle ne respectait pas Tarat HaMishpacha. Et donc le rabbi lui répond, écoute, à partir de là, donc bien entendu, Tarat HaMishpacha, c'est quelque chose d'inévitable, mais maintenant tu devras t'efforcer à faire connaître Taharat HaMishpacha à des gens qui ne l'auraient pas connu sans toi, à tes amis, à ton entourage, à tes voisines, à ta famille. Et ça, maintenant, c'est à toi d'être un petit peu une commerciale de Taharat HaMishpacha. Et c'est ça. Qui, donc, c'est, à la rigueur, donc, le regret doit juste me donner peut-être une, m'aider dans la direction dans laquelle je me dirige pour la Kabbalah Léatide. Mais le principal, bien entendu, c'est ma Kabbalah Léatide. Et on finit par une petite anecdote chassidique. On parle dans une des grandes yeshivot en Russie. Où un jour, le Majguiar s'appelle Raskel Feigin. Et il s'adresse à ses élèves pour leur dire que l'ambiance spirituelle n'était pas au top. Et donc il leur fait des reproches sur leur façon d'étudier ou de faire leur tefillah. Et les élèves ont tous éclaté en sanglots. Ils ont tellement été touchés par les propos de leur magiar, ils sont tous mis à pleurer. Alors qu'ils étaient en train de pleurer, une alarme s'est mise à sonner qui faisait référence à l'arrivée des bolcheviques là-bas ou des communistes. En tout cas, ça annonçait un danger imminent. Et donc, en cas de danger imminent, ils avaient déjà les recommandations. Toi, tu vas là, lui, il va là, lui, il va là. Et Mamash, dans les secondes qui ont suivi le retentissement de cette alarme, chacun, il a su ce qu'il fallait faire. Il s'est dirigé là-bas. Et en deux secondes, il n'y avait plus personne. Tout le monde était caché, plus personne n'était visible. Et à travers ça, ils ont évité le danger. La fois d'après, où ils se sont réunis donc avec leur Majguiar, il leur a dit, mais voilà, c'est ça ce que je vous disais. Quand je vous ai dit que vous avez des défaillances spirituelles, vous êtes mis à pleurer. Alors que quand votre corps il était en danger, vous avez agi. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Il dit alors, laissez les pleurs pour le Yetzarara. Quand on vous dit, prenez sur vous de faire. Et les pleurs après, ils viendront pas. C'est dans une deuxième étape. Le principal, c'est Kabbalah Léatide. À travers la Kabbalah Léatide, Akadosh Baruch Hu ne pourra que nous procurer que un avenir à l'image de nos Kabbalot. Amen. Kenny Ratson.